Donc pendant que lui le cherche, je vais vous donner un petit arrière-plan de qui vous avez devant vous. Je m'appelle John Mitchell. Mon épouse Beverly. On est mariés. Nous avons deux enfants. Nous sommes venus en France en siècle dernier. Donc ça fait longtemps maintenant. 1965, on est arrivé à Marseille. Et puis, maintenant, nos deux enfants sont mariés et nous avons sept petits-enfants. Notre fils aîné John est dans la région de Toulon, où il est éducateur spécialisé dans un centre des jeunes handicapés mentaux et physiques aussi. Et il est ancien dans l'église baptiste de Toulon. Notre fils David, John a deux enfants, et David et Linda, ils ont cinq enfants, ils sont missionnaires au Mexique, dans un pays qui est aride aussi. Alors, la première fois depuis 8 ans, tout le monde était ensemble le mois de juin pour fêter notre 50e anniversaire. Et les enfants disaient, bon, vous êtes prêts à entamer une deuxième série de 50 ans de mariage? On verra. On verra ça. Alors, je vous invite à ouvrir vos Bibles à Galates chapitre 5. Ce passage est un passage bien connu. Bien connu. Au moins, j'espère. Galates chapitre 5. Non, ça va, ça marche. Oui, ça marche. Oui. Quand on a le numéro 2 là, ça veut dire que ça marche. À partir du verset 16, et souvent l'apôtre Paul, dans sa sagesse qui venait de Dieu, il donne les choses que nous devons remplacer dans nos vies. Mais quand il donne quelque chose, ou quand il enlève quelque chose, il dit qu'il faut mettre quelque chose à la place. Parce que sinon, vous n'aurez n'importe quoi qui entre à la place de ça. Alors, au verset 16 de Galates chapitre 5, il dit, « Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Donc voilà les deux choses. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi, parce que n'oubliez pas que Galates a été écrit afin de montrer que la loi de Dieu a été accomplie. Et pas aboli. Verset 19, or, les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie. Est-ce que je dois lire ce qui suit là? Qu'est-ce que ça dit? Après l'ivrognerie. L'excès de table. Oula. Bon. Les excès de table. Et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. Alors, pour commencer maintenant, j'aime poser des questions. Je ne sais pas si ça vous plaît ou non, mais c'est comme ça. J'aime poser les questions. Alors, pourquoi nous, les êtres humains, faisons les choses que nous faisons? La réponse à cette question est en réalité simple. L'homme fait ce qu'il fait. Vous savez pourquoi? Parce que il est ce qu'il est. Souvent dans la vie, on cherche les complications, surtout de notre époque ici en France, parce que quand on enlève Dieu, l'homme devient Dieu à sa place. Et dans le monde, en France ici, j'ai lu récemment les statistiques qui disaient que en France, 98% de la population de la France croit soit que Dieu n'existe pas, soit qu'il n'a aucune place dans la vie de tous les jours. 98%. Donc, l'homme fait ce qu'il fait parce qu'il est ce qu'il est. Et il ne fera pas autrement jusqu'à ce qu'il soit autrement. C'est tout simple, hein? Alors, maintenant, Jésus dit, dans Jean chapitre 15, verset 5, il disait ceci: « Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte un peu de fruit. » Beaucoup? Ah oui, porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. On vient de lire le texte là du verset 19. Je vais vous le lire dans un autre passage, afin de voir de quoi il parle quand il a dit « Vous pouvez apporter beaucoup de fruits. » Et voilà le texte dans une autre version de la Bible. « Tout le monde voit bien ce que produit la nature pécheresse. C'est l'immoralité, les pratiques dégradantes et la débauche, l'adoration des idoles et la magie, les haines, les querelles, la jalousie, les dissensions, les divisions, l'envie, l'ivrognerie, les orgies et autres choses de ce genre. Je ne puis que répéter ce que j'ai déjà déclaré à ce sujet. Ceux qui commettent de telles choses, de telles actions, ne rentrent aucune part à l'héritage du royaume de Dieu. » C'est sérieux ça. C'est sérieux. Maintenant, nous allons voir ce fruit dont Jésus a parlé. Ce fruit, c'est le fruit de l'Esprit. Et le fruit de l'Esprit, c'est... Le premier, c'est quoi? L'amour. Deuxième, la joie. Troisième, paix. Patience. OK. Ayez patience, je vais arriver. Hein. Après, la bonté. Ensuite, la bienveillance, OK, regardez bien, j'ai changé le mot. Et vous allez voir pourquoi. L'intégrité, vous allez voir pourquoi dans un instant. Après, la foi, wow, on a parlé et on a chanté de cela aujourd'hui. Hein. Après la foi, c'est... C'est quelque chose que je n'aime pas. Oh, pas encore. C'est la douceur. Paul disait à l'église, à Philippe, que votre douceur soit connue de tous les hommes. Et ce verset me hante, parce que ce n'est pas la réalité dans ma vie, la douceur. Si vous ne me croyez pas, demandez à ma chère et tendre épouse. Parce que je manque quelque chose. Le neuvième fruit de l'esprit, c'est la maîtrise de soi. La maîtrise de soi. Et on va voir comment ça tourne, ces neuf choses-là. Alors, quelque chose. Notez que ces neuf caractéristiques sont tous dans le domaine de l'attitude que nous devons avoir et non des actions que nous devons faire. Et malheureusement, dans l'Église évangélique, c'est souvent ce n'est pas le cas. Souvenez-vous de notre titre? L'homme fait ce qu'il fait, pourquoi? Parce qu'il est ce qu'il est. Et il ne fera pas autrement jusqu'à ce qu'il soit autrement. Donc, ce n'est pas compliqué. Hein? Voyons maintenant ces neuf caractéristiques en détail et la manière dont ils changent notre vie de tous les jours. Parce que notre vie doit changer de jour en jour, chaque jour. Nous devons grandir dans la foi et dans la connaissance de Jésus-Christ. Alors, le premier fruit de l'esprit, c'était l'amour. Vous voyez le cœur, là? C'était la patrouille de France qui faisait ça, à Toulon. Ok, l'amour. Qu'est-ce que l'amour veut dire? Et voilà ma définition. C'est le dévouement à quelqu'un, avec les deux aspects de la compassion et de la privation de soi. Compassion veut dire oui, souffrir avec. Compatir. Souffrir avec. Privation de soi, ça va sans dire. Alors, voici comment cette sorte d'amour nous aide dans la vie quotidienne, y inclus dans l'Assemblée de Jésus-Christ. Souvent, nous oublions ceci, c'est que, numéro un, ce sont mes frères et mes sœurs, donc ma propre famille. Tout le monde qui est ici, qui est né de nouveau, qui ont reçu le Seigneur Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur, c'est membre de ma famille. Parce que n'oubliez pas que Jésus-Christ, quand il était devant ou en conversation avec Nicodème, il a dit à Nicodème, parce que Nicodème disait, nous savons que toi, tu es venu de Dieu, parce qu'il n'y a personne qui peut faire ces miracles que tu fais, sauf si Dieu l'a envoyé. Et Jésus disait, ah oui, merci beaucoup, parce que, non, Jésus n'a rien dit comme ça. Qu'est-ce que Jésus disait? Il disait, Nicodème, ce n'est pas là ton problème. Ton problème est ceci. Tu as besoin d'être né de nouveau. Né de nouveau. Et entre parenthèses, les gens disent, ah oui, mais John, n'oublie pas qu'on peut perdre le salut. Ah bon? Donc, vous connaissez le verbe dénaître? Est-ce que c'est possible? Qu'est-ce que Nicodème disait? Mais Jésus, est-ce que c'est possible de rentrer de nouveau dans le ventre de ma mère et de recommencer? Jésus disait non, c'est pas ça. Donc, on ne peut pas perdre le salut. Et 1 Pierre, chapitre 4, verset 8, Pierre disait ceci, avant tout, aimez-vous ardemment les uns les autres, car l'amour pardonne un grand nombre de péchés. Et ce qui me triste, parce que maintenant, les gens disent, mais John, tu es à la retraite, n'est-ce pas? J'ai dit, prof, je suis comme la vaste majorité de catholiques dans le pays. Ah bon? Comment ça? Mais ils disent, nous sommes des catholiques, mais non pratiquants. Alors, je suis un retraité, mais non pratiquant. Et nous voyageons un peu partout, Beverly et moi, pour remplacer les pasteurs ici et là. Et nous voyons, même dans notre propre assemblée, que là, il y a un très grand problème. Pourquoi? Pierre disait « Aimez-vous ardemment les uns les autres ». Pourquoi il a dit ça? La réponse est archi simple. Vous savez pourquoi il a dit ça? Oui, mais ça c'est vrai, mais c'est pas pour cela. La raison, à mon avis, c'est parce qu'il ne le faisait pas. Il ne le faisait pas. Et combien de fois, dans l'Assemblée, nous voyons la même chose. Les gens ne s'aiment pas. Et c'est pour ça qu'il a dit, avant tout, aimez-vous ardemment les uns les autres. Et une fois, dans notre Assemblée, on avait un programme de Noël et j'avais le PowerPoint. Ça, c'est pas le PowerPoint, en parenthèse, parce que j'ai mon ordinateur là et peut-être vous pouvez voir que c'est Adam. Vous voyez Adam? La pomme. C'est Keynote, mais c'est la même chose que PowerPoint. Vous pouvez m'entendre ici? Je n'aime pas être collé derrière la poutre. Alors, on avait un problème pour le programme de Noël. La machine, là, ne voulait pas marcher. Alors après, c'était l'ordinateur qui ne voulait pas marcher. Et malheureusement, tout le programme de Noël était basé sur les images qu'on devait projeter sur l'écran. Alors, après une heure de boulot avec tout le monde, là-dedans, surtout, il y avait 4 ou 5 hommes qui sont venus, qui montaient des... Finalement, on a pu commencer le programme. Une heure en retard. Et on avait un gars dans l'Assemblée. Il n'était pas chrétien. Mais il aimait me critiquer. De tout, de tout, de tout. Et après le programme, il est venu me voir et je me suis dit, bon, ok. Je suis prêt, vas-y. Il a dit, ce programme était super. Et il a dit, mais John, qu'est-ce que tu fais là? Je suis tombé dans les pommes. Et j'ai dit, super? Avec tous les problèmes qu'on avait, cet homme est inconverti. Hein? Et il a dit, John, c'est pas ça. C'est pas les problèmes. C'est l'amour que j'ai vu entre vous qui m'a drôlement impressionné. L'amour que vous avez entre vous. Aimez-vous ardemment les uns les autres. Alors, numéro 2. Si nous sommes vraiment disciples de Jésus, nous aurons cet ardent amour pour les autres chrétiens. Pourquoi? Parce que Jésus disait, « À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si... » Dites-le, « Si... » Wow! Ça, c'est beaucoup, hein? N'oubliez jamais ceci. Si l'amour n'est pas évident, c'est parce qu'il est absent. Je suis profond, hein? Mais souvent, on marche à côté de nos pompes pour les choses simples. Parce que c'est comme une fois, j'avais un centre biblique à Fontainebleau. Quand on était en train de fonder une église dans la région de Fontainebleau, et une dame est venue, elle a vu un panneau que j'avais, et elle m'a dit, le salut, c'est quoi le salut? Et je lui ai expliqué, et sa réponse était, monsieur, ça c'est trop simple. Et je lui ai dit, mais madame, qui vous avait jamais dit que c'est compliqué? J'ai dit, je réponds à ma question. C'est l'Église qui vous avait dit que c'est compliqué. L'Église. Parce que c'est pas compliqué, le chemin de salut. C'est dur, mais c'est pas compliqué. C'est dur. Si l'amour n'est pas évident, c'est parce que c'est absent. Alors, deuxième, l'amour, la joie, voilà. Deuxième caractéristique, la joie. Voilà ma définition du mot joie. Je ne sais pas si vous l'aimez ou non, mais étant donné que j'ai la possibilité de vous montrer ça, je vous donne ma définition, c'est la satisfaction de l'âme. C'est pour cela que quand il y a... vous connaissez Joël Chiron. Joël était dans notre église, dans la région parisienne, quand il n'était pas plus haut que trois pommes. Sa famille aussi. Et la maman de Joël est tombée gravement malade à l'âge de 42 ans. Elle est morte à cause d'un tumeur au cerveau. Elle était dans l'hôpital à Melun. Et dans l'hôpital, elle était connue comme... quel était le mot qu'ils ont utilisé, chérie, pour elle? Je pense que c'est ça, le miraculé. C'est pas que Dieu l'a guérie, mais c'était son attitude qu'elle avait. Nous avons dit à tout le monde dans l'assemblée, allez à l'hôpital, pas tous en même temps, mais vous allez à l'hôpital afin d'encourager Marcel. Et après quelques semaines, les gens disaient, mais John, c'est impossible, nous ne pouvons pas encourager Marcel. C'est elle qui nous encourage à cause de son attitude. Et même l'infirmière disait une fois, je suis entré dans la chambre, elle était dans le délire. Et qu'est-ce que disait? Moi, je sais ce que je dis dans un cas pareil, parce que j'avais 16 opérations déjà. Et une fois, j'étais dans l'hôpital et je disais à Beverly, éteins la lumière, ça me fait mal à l'estomac. N'importe quoi. Marcel, qu'est-ce que faisait-elle? Elle citait les psaumes et le livre de Job. Mais à son enterrement, pratiquement tout le personnel de l'hôpital était là. Et qu'est-ce qu'ils ont vu? De notre côté, la satisfaction de l'âme. Il disait, mais pourquoi vous êtes si calme, si joyeux? Qu'est-ce que vous avez, vous? Qu'est-ce que vous avez? Alors, quand vous êtes avec vos frères et sœurs, si vous êtes mal à l'aise, ça arrive, n'est-ce pas? Posez-vous cette question. Est-ce que j'ai la satisfaction de l'âme ou y a-t-il quelque chose entre moi et mon frère ou ma sœur ou entre moi et Dieu? Et qu'est-ce qu'il faut faire dans cette instance-là? Il faut aller voir ce frère, cette sœur et régler la chose. Et combien de fois dans l'assemblée je vois qu'il y a toujours ça parce que les gens ne veulent pas mettre ça en règle. Et la joie du Seigneur n'est pas là. Troisième caractéristique, c'est la paix. La paix. La définition de la paix, c'est l'état tranquille de l'âme assuré de son salut à travers Christ, qui ne craint rien de Dieu et se contente de son sort terrestre, quel que soit. Alors, c'est comme le garçon là, au-dessus du bateau. Tu as vu le garçon là? S'il peut chanter des louanges en face de l'adversité de danger, parce qu'il était en danger là, qu'est-ce que ça signifie? Qu'il a la paix intérieure. N'oubliez pas que dans une situation comme ça, ça ne veut pas dire qu'il n'aura pas la peur. Mais ce qu'il n'aura pas, c'est la panique. Il y a une différence entre peur et panique. Et donc, la paix de Dieu nous donne la tranquillité de l'âme. Alors, numéro 4, c'est la patience. Ça, c'est difficile aussi, mais la patience veut dire l'endurance constante, la persévérance, lenteur à venger des fautes. Alors, considérez ceci. Là où il n'y a pas de problème, on n'a pas besoin de la patience. Combien de fois dans votre vie vous pouvez me dire, John, je n'ai pas de problème. il y a toujours quelque chose, n'est-ce pas? Toujours quelque chose qui arrive. Alors, cinquième caractéristique, la bonté. La bonté, c'est la droiture de cœur et de vie, l'amabilité, la disposition à bien faire, gentillesse, politesse. Est-ce que ça, c'est caractéristique de notre vie? Tout ça. L'application de la bonté, c'est ceci. Être prêt à aider les autres. Et ce couple-là, pendant toute leur vie, parce qu'on connaissait ce couple depuis 1960. Et cette photo-là est assez récente. J'ai pris la photo il y a à peu près 2 ans. Et ce couple-là, c'est la bonté. La bonté. Et aussi, la sixième caractéristique, la bienveillance, qui veut dire bonté morale, intégrité. Donc, le mot intégrité, vous vous souvenez, j'ai enlevé le mot bienveillante pour mettre ça. Alors, vertu, douceur, bonté, obligeance, bonne tenue. Alors, le mot intégrité, qu'est-ce que ça veut dire? Je vais vous donner 14 mots qui va définir le mot intégrité. Numéro 1, honnête, sincère. Vous savez d'où vient le mot sincère? Pendant le Moyen-Âge, les menuisiers, quand ils fabriquaient les meubles, s'il y avait un défaut ici dans le bois, ils ont pris de cire et ils ont rempli ça avec du cire. Et après, ils ont mis du vernis ou quelque chose comme ça pour masquer leur tromperie. Alors, les gens honnêtes disaient, je veux un meuble sans cire. Sans cire. Je veux que ça soit intègre. Donc, le mot sincère vient de ça, aussi simple que ça. Pur, naturel, solide, constant, incorruptible, inattaquable, digne de confiance. Donc vous voyez, nos politiciens, ils sont intègres. Hein? Impartial, ouvert à la correction, transparent. Et n'oubliez pas, ouvert à la correction. Souvent, je demande aux gens, est-ce que vous êtes ouvert à l'enseignement? Ah oui. Mais j'ai trouvé qu'ils sont ouverts à l'enseignement, mais pas à la correction. Et on ne peut pas être ouvert à l'enseignement si on n'est pas ouvert à la correction. Ça va de pair. Transparent, juste, tranquille. Oh là là. Ça, c'est quelque chose, hein, le mot intègre. Et nos vies doivent être caractérisées par ça. Septième caractéristique, la foi. Définition de la foi, être absolument persuadé que Dieu est capable d'accomplir ce qu'il a promis. Où est-ce qu'on trouve ça dans la Bible? Non, pas Hébreu, ça viendra. Hein? Voilà Hébreu. Une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. L'autre là, c'est Romains chapitre 4, quand Paul a parlé d'Abraham. Abraham a été complètement, absolument persuadé que ce que Dieu a promis, il peut aussi l'accomplir. Donc une définition excellente de la foi. Et Paul disait à l'église à Corinthe, ceci, nous vivons guidés par la foi, non par la vue. Guidés par la foi, non par la vue. Et Claude, aujourd'hui, dans sa présidence, il a fait référence à cela. La foi et la louange. Alors, huitième caractéristique, c'est la douceur. Pourquoi j'ai monté ce petit bonhomme-là? Parce que lui, il n'est pas très doux. Hein? La définition, l'attitude de cœur et de comportement qui, en provenant de l'humilité, dispose le chrétien à recevoir avec gentillesse et douceur tout ce qui lui arrive de la part des autres ou de Dieu. Je peux comprendre que ça arrive de la part de Dieu, mais de la part des autres, eh oui, ça fait partie de cela. Et qu'est-ce que Paul disait à l'église à Philippe? Philippiens chapitre 4, verset 5. Un verset qui me hante, je n'aime pas ça, parce que ça dit que votre douceur soit connue de tous les hommes. Mais c'est là pour cette raison-là. Alors, le neuvième caractéristique, c'est la maîtrise de soi. Aïe, aïe, aïe. La maîtrise de soi. La définition, contrôle de soi. Ceux qui sont maîtres de leurs désirs et de leurs passions. C'est ça, la maîtrise de soi. Alors, 9 petits mots. Mais quels mots, hein? L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, l'intégrité, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Mais ce n'est pas n'importe quel mot. Shakespeare disait une fois, être ou ne pas être, telle est la question. Mais malheureusement, dans l'Église, l'accent est mis sur le faire. Le but que Dieu a pour ce fruit de l'Esprit est de nous équiper d'une manière sainte afin que nous serions les enfants de Dieu capables de faire les bonnes œuvres que Dieu a préparées pour nous et d'agir correctement devant la situation de la vie. Vous voyez pourquoi l'accent est mis sur ce qu'on est et non pas sur ce qu'on est, fait, pardon. Sur ce qu'on est et ne pas sur ce qu'on est. Ça doit être dans cet ordre-là, la formule pour la croissance spirituelle. Pousser comme des champignons, peut-être, mais de grâce, ne disparaissez pas comme des champignons non plus, hein, parce que les champignons, ça disparaît très vite. Hein. Alors, voici comment cela pourrait fonctionner. L'amour, c'est le dévouement à l'autre. L'époux pour son épouse, l'épouse pour son époux, ou membre de la famille, ami, membre de l'église, collègue, voisin, n'importe qui, hein. C'est l'amour qui est le fruit de l'esprit, puisque Dieu est amour. Et puisque nous voyons ça de cette optique-là, nous voyons le monde à travers les yeux de Dieu. Les autres caractéristiques sont l'expression de l'amour. La joie te donne cette satisfaction de l'âme, indispensable pour faire face aux situations désagréables. La paix te rassure que tes faits viennent de Dieu. La patience te pousse à être gentil avec les autres. Tu cherches à valoriser l'autre personne. Surtout quand cette personne est désagréable. Parce que notre tendance naturelle, c'est d'être désagréable à notre tour. Mais c'est le contraire que Dieu veut pour nous. Alors, la bonté te donne la gentillesse. Et l'intégrité ou la bienveillance te donne l'honnêteté, la bonne morale et la bonne tenue. La foi te donne une confiance absolue en Dieu. Donc, l'impossible devient le possible. Quant à la douceur, ceci nous donne l'humilité et la gentillesse, afin d'accepter tout ce qui arrive de la part des autres, et surtout de la part de Dieu. Nous pouvons accepter ce qui arrive de la part de Dieu, mais de la part des autres, ça c'est autre chose. Mais non, c'est pas autre chose. C'est Dieu qui a fait ça. Enfin, la maîtrise de soi nous donne le contrôle sur nos impulsions, nos réactions néfastes. Bref, la sorte de vie qui sert comme un flambeau au milieu d'une génération perverse et corrompue qui se trouve dans un désert spirituel. Est-ce que la France est un désert spirituel? Que pensez-vous? Oui, oui ou oui, oui. Très bien, très bien. Alors, parfois nous sommes la seule fleur au milieu d'une terre aride et sèche. Ça, j'ai pris cette photo juste derrière notre appartement. Le seul fleur qui poussait à travers les rochers. C'était le seul fleur là. Mais comme la fleur, nous avons la joie de témoigner de la présence de la vraie vie ici dans ce pays spirituellement aride et sec. Alors, je ne peux pas vous dire trop souvent que notre façon d'agir devant les hommes est probablement la clé la plus importante qui va amener les gens vers Dieu. C'est pénétré? Alors, nous ne devons jamais oublier ceci. Les gens forment leur opinion de Dieu par ce qu'ils observent en nous. Il nous incombe donc de nous conduire d'une manière digne de l'Évangile de Christ. Jésus, dans Matthieu 7, verset 20, disait, « C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. » Alors, frères, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. Amen. Et Seigneur, que tu nous donnes maintenant le désir de mettre toutes ces 9 caractéristiques, toutes ces 9 fruits de l'esprit en réalité dans nos vies, afin que nos vies soient utiles pour toi. Et merci, Seigneur, pour ta présence dans la vie de chacun de nous. Au nom du Seigneur Jésus. Amen.